Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, encore un épisode hors série puisque c'est Morgane que nous allons réentendre aujourd'hui. Morgane qui avait témoigné dans l'épisode numéro 16, donc il y a plus de 2 ans, qui m'a recontactée récemment parce qu'on reste en contact et qu'elle avait envie de préciser un peu les arguments qu'elle avait déjà développés à l'époque. Et donc, on va voir si elle est toujours critique du genre aujourd'hui. Voilà, bienvenue Morgane.
Alors, bonjour Blandine, merci. Oui, je suis toujours critique du genre, plus que jamais, j'ai envie de dire. J'ai encore étoffé un peu ma pensée sur le sujet, notamment parce que je suis dans un contexte aujourd'hui qui m'amène encore plus à penser comme je pensais à l'époque, à savoir être critique du genre. Alors, le contexte, c'est que au moment où j'ai enregistré le premier podcast, j'étais en cours de reconversion professionnelle et c'était un peu situation où j'étais un peu, comment dire, quand je disais en sécurité, j'étais pas entourée de beaucoup de gens du milieu, entre guillemets, féministe. J'avais assez peu de risques de m'exprimer très librement sur le sujet, puisque je côtoyais pas de gens du milieu LGBT, queer ou autre. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, puisque je travaille toujours dans le milieu de la beauté et je suis en fait amenée à côtoyer beaucoup de gens qui sont dans le milieu queer, dans le milieu LGBT, notamment les collègues, notamment beaucoup de clients. Et c'est assez compliqué à gérer au quotidien, puisque je suis totalement partagée entre la bienveillance naturelle et l'empathie que j'ai naturellement. Prendre des pincettes, faire attention à comment je suis pour pas faire du mal aux gens, et en même temps ce que je pense dans le fond, et ça me met dans un état un petit peu de, je sais pas si c'est le bon terme, mais un peu de schizophrénie où je sais pas trop comment me positionner. Je suis un peu,
Peut-être un peu de dissociation.
c'est possible parce que j'ai un peu l'impression que du coup je mets un masque un peu tous les jours. Je suis moi et en même temps il y a beaucoup d'aspects de moi que je peux pas montrer. Ce que je pense vraiment, je peux pas le dire. Quand il y a des choses qui m'interpellent, je peux pas les dire. Je suis obligée de me taire.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
Par exemple, une personne très proche dans mon boulot, c'est une personne que j'apprécie fortement, qui m'a apporté beaucoup de choses, qui m'a permis d'avoir beaucoup de confiance en moi aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que je pense que je serais capable d'évoluer sur des choses plus concrètes au niveau du travail. Mais par exemple, cette personne, elle a fait une GPA. Et moi, ça, par exemple, je me sens, oui, complètement. Je suis partagée entre j'apprécie la personne parce que je sais ce qu'elle peut apporter aux autres et en même temps. Le fait d'utiliser un autre être humain pour son bonheur personnel, ça m'insupporte.
Alors quand tu dis
Et
elle
c'est.
a fait un GPA, on va être précis, c'est un homme en fait.
Ouais.
Donc il n'a pas fait un GPA, il a acheté un bébé.
C'est ça, en fait, c'est terrible parce que moi, je suis dans une situation où je désapprouve totalement parce que je suis contre l'utilisation de nos corps, de tous les corps, de tous les humains, mais d'autant plus les femmes, puisque les femmes, on peut être exploitées sexuellement, on peut être exploitées avec nos capacités reproductives, on est exploitées. Pour beaucoup de femmes dans les couples, notamment les couples hétéros. Et en fait, c'est encore une façon d'utiliser les femmes. Et je suis féministe radicale, je ne peux pas accepter un truc comme ça. Et d'un côté, c'est dans le cadre de mon travail, donc je ne peux pas m'exprimer librement sur le sujet. Et l'autre truc, c'est que oui, je suis obligée de me cacher un peu et de pas trop montrer ce que je pense. Et même si je suis pas du genre à chercher les conflits, mais c'est difficile quand quelqu'un fait quelque chose que toi, tu soutiens pas du tout, c'est difficile de rester indifférent en fait. C'est hyper difficile parce que ouais, j'ai l'impression de me silencier pour ménager les gens. Alors pour moi, le vrai problème, c'est d'exploiter quelqu'un.
Ce que tu décris, ça me fait penser, tu sais, à toutes ces femmes qu'on interviewe à chaque fois quand elles ont leur mari violeur, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est pas toi qui es responsable de ton mari, quoi. Voilà. Maintenant, c'est sûr que c'est une position vachement difficile parce que quand tu as un lien affectif avec quelqu'un qui commet ce genre d'atrocité, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué.
Oui, et en même temps, il y a un côté très partagé parce que, comme je disais, c'est une personne à côté de ça qui, je pense, est capable, parce que je le vois au quotidien, de beaucoup de bienveillance. Et c'est pas une personne qui a une mauvaise intention, mais je pense qu'il y a vraiment, pour plein de gens, il n'y a pas conscience de exploiter un être humain. On est tellement en train de banaliser le truc. Là, je suis en train de regarder une série en ce moment et il y a un passage sur un des personnages principaux qui veut avoir recours comme ça à une mère porteuse et c'est complètement banalisé, ne serait-ce que dans la série Friends, par exemple. L'un des personnages principaux, elle fait une GPA pour son frère, pour des triplés, et ça choque personne, c'est normal, parce que c'est le sacrifice ultime qu'une femme peut faire pour faire plaisir aux autres. Et en fait, on n'apprend pas assez aux femmes à être égoïstes. On nous apprend à toujours donner aux autres et ménager, et faire plaisir aux autres. Et franchement, des fois, c'est faut qu'on apprenne à devenir égoïste, en fait.
Sans parler du coup pour l'enfant, je veux dire l'enfant qui lui-même le fait l'objet d'une transaction, et même dans le cas d'une GPA dite éthique, où du coup il y a seulement la mère qui sera exploitée, l'enfant reste quand même l'objet d'un contrat, il est conçu sur commande, etc. C'est super compliqué pour un enfant de grandir en ayant été l'objet d'un contrat.
Oui, et puis je peux comprendre que quelqu'un veuille être parent. Moi, je veux pas d'enfant personnellement, mais je peux supposer que oui, il y a un côté un peu viscéral au fait de vouloir être parent et tout ça, mais pas à n'importe quel prix en fait. Pas au prix de la souffrance des femmes, de risque de mort, parce que bah, ce que tout le monde oublie quand on parle de cette histoire-là, donc de cette GPA, pour la personne que je côtoie au quotidien, c'est que la mère, en l'occurrence, elle a fait une prééclampsie, qu'elle a failli crever,
Qu'elle a
et
fait.
qu'en fait, on n'en parle jamais maintenant. Moi, des fois, je suis là, je dis, et sinon, elle va comment? Tout le monde s'en fout. Ça y est, elle a fait son taf. Ça se trouve, elle a des séquelles. Peut-être qu'elle ne le vit pas si bien que ça, d'avoir laissé un bébé qui n'est peut-être pas de ses gènes théoriquement. Mais enfin, il faut arrêter de dire que c'est que la mère porteuse. On n'est pas des fours. C'est-à-dire que le bébé, certes, il a peut-être des gènes qui ne sont pas les siens, techniquement, avec un ovule qui est, comment dire, lié à un don et un don de sperme. Mais n'empêche que le bébé, il grandit dans son ventre à elle. Donc, c'est sa voix qu'il entend à elle. C'est elle qui a un bébé dans son corps, qu'elle sent grandir. Elle, je sais pas, j'ai jamais vécu de grossesse, mais je suppose que c'est pas anodin quand on a un bébé dans son corps qui grandit. Enfin, déjà, c'est pas anodin, je pense, pour la santé générale. Et puis, je pense que de toute façon, notre corps, il est quand même conçu, même si des fois ça marche pas toujours bien, parce qu'on le voit avec les mères qui ont du mal à s'attacher à l'enfant tout de suite, et ça arrive, et c'est OK. Je pense que c'est normal aussi que le cerveau humain s'attache au bébé qui est à naître. Enfin, je veux dire. Bah, c'est de la dissociation, comme on disait juste avant, en fait. Encore une fois, si on dissocie totalement ce que nous, on peut ressentir, parce qu'il faut se détacher de cet être à venir, parce qu'il n'est pas à nous, alors qu'il a grandi dans notre corps. Enfin,
En tout cas, ce que tu dis, c'est une illustration parfaite des prétendus hommes alliés de la cause qui sont féministes, gentils, etc., jusqu'au moment où ça les concerne. Et là, en l'occurrence, bah, ce qu'il lui faut, c'est un bébé, bon, peu importe, tous les principes, du moment qu'il a son enfant, quoi. Le nombre d'hommes qui te font croire que tu peux compter sur eux, mais jusqu'au jour où ça va empiéter sur leurs propres intérêts, juste parce que tu protèges ceux des femmes, eh ben, c'est quand même assez sidérant, quoi. Bref.
Ouais.
Et alors concernant la critique du genre, tu veux développer?
Alors, la critique du genre. Je pense toujours pareil, je pense toujours que le sexe doit primer sur le genre, puisque le genre est un ressenti personnel, que c'est une soi-disant construction sociale. Dans ces cas-là, pour moi, ça ne devrait pas avoir autant d'importance que celle qu'on lui accorde. Ça ne devrait même pas en avoir, ça ne devrait même pas exister en réalité. On devrait pouvoir être homme, femme, peu importe nos attirances sexuelles, peu importe les activités qu'on aime faire, le style qu'on aime avoir. Et au quotidien, bah, j'en croise énormément au travail. J'en croise énormément de tout style. Ça peut être soit les petites jeunes qui, je pense, sont non-binarité, en train de commencer des transitions ou juste des transitions sociales qui vont sûrement changer d'avis, j'espère, pour elles, d'ici quelques années. Mais ça se voit, en fait, c'est terrible parce que les gens qui sont dans ce milieu-là, tu as l'impression quand tu les écoutes qu'ils sont là à se faire des discours de tu es unique, tu es parfait, ton identité elle est à toi. Et en fait, quand tu les mets tous les uns à côté des autres, ils se ressemblent tous. Il n'y a aucune différence. Ils ont tous la même attitude, le même style. Enfin, je dis pas, moi, j'ai eu une mode quand j'étais au collège, c'était le style gothique. Enfin, je veux dire, on avait tous ce style-là. Bon, bah voilà, c'est pas grave. Mais en fait, tu as l'impression qu'ils ont ce côté un peu, nous, on est les élus, on est plus intelligents que les autres, on sort des cases alors que vous sortez de rien du tout. Vous êtes tous pareils, vous êtes tous dans ce même délire. Dans ce petit cocon, mais le jour où vous allez en sortir, vous allez réaliser à quel point c'est ridicule et à quel point en fait vous êtes dangereux. dangereux parce que vouloir en fait déconstruire des normes qui sont nécessaires, à savoir par exemple séparer les sexes, c'est nécessaire pour nous en fait, on en a besoin. Donc en fait, quand tu les vois au boulot, bah oui, il y a énormément de filles qui, je pense, sont transidentifiées, peut-être non binaires ou autres. Tu as aussi les jeunes garçons qui font des transitions pour être des femmes et ça se voit à 10 km. Mais à 10 km, ils font 1,80 m, ils ont déjà la grosse pomme d'Adam, une voix grave, mais ils parlent de manière très efféminée. Alors, ça, c'est pareil. C'est un truc qui peut avoir tendance à fortement m'agacer, même si je dis rien. C'est la manière de parler qui fait très bimbo stéréotypé. Tu vois, cette façon de parler en minaudant, je supporte pas. Parce que je suis une femme et je ne parle pas comme ça. Et je trouve ça insupportable et je trouve ça insultant. Parce que ça fait pas plus de toi une femme, ça fait juste de toi quelqu'un qui fait très superficiel, en fait. Ton critère pour devenir ce que tu penses être une femme, c'est quelque chose de superficiel. Et je trouve ça insultant. Donc tu as les cas comme ça de jeunes qui font des transitions et ça se voit de très loin. Puis tu as les cas des personnes moins jeunes qui ont fait des transitions, notamment beaucoup de personnes qui sont typées brésiliennes. Donc c'est des hommes, hein, ça s'entend dans leur voix de toute façon. Si tu les entends pas trop parler, tu regardes pas trop, ça passe. Mais en fait, dès que tu entends parler et tout ça, ça se voit. C'est très grossier en fait, ça se voit quoi. Et tu as aussi certains cas, j'en ai eu très peu, mais quand même quelques-uns, où là c'est carrément une personne qui veut créer un compte chez nous, je mets madame parce que je vois que les vêtements, c'est une petite robe, des petites boucles d'oreilles et un comportement qui fait penser que la personne s'identifie comme femme. Mais la personne, disons qu'elle me dit qu'elle s'appelle Julia, moi je vois Julio. Parce que tu as une énorme voix, tu as des énormes mains, tu as une calvitie. Et en fait, moi je suis là, je suis obligée de. Parce que je me dis, si je crée le compte, mais que je mets pas le bon truc, si je mets monsieur au lieu de madame, et que cette personne, elle reçoit un mail, et qu'elle voit écrit monsieur dans son mail, je me dis, mais ça se trouve, la personne va venir m'agresser parce que j'ai pas mis madame. Enfin, j'arrive à un stade où.
Et tu demandes pas?
J'ose pas. J'ai un peu peur de la réaction de la personne, quoi.
Et t'as pas de consigne par rapport à ça au travail?
Non.
D'accord. Donc en fait, tu dois toute seule savoir si tu t'auto-censures ou si tu prends le risque d'avoir des ennuis après, quoi. Super.
Non, moi j'ai compris. Il faut que je me base sur les stéréotypes. Je suis obligée de me baser sur des stéréotypes sexistes pour déterminer ce qu'est la personne en face. Ce qui est débile parce que ça revient à me forcer en fait à faire ce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse. À leur attribuer un genre sans les connaître, sans savoir, sans leur avoir demandé. Mais en même temps, si je te demande, tu vas le prendre comment? Si je demande à la personne qui est en face de moi, je mets madame ou monsieur? Bah, elle va réagir comment? Je pense qu'elle va pas très bien réagir. Elle va réagir comme si c'était une évidence. Mais ça n'est pas une évidence.
C'est toujours pareil, hein, c'est exactement ça. L'impolitesse ici, ce serait de dire la vérité. Bon, je trouve ça ultra impoli de forcer quelqu'un à dire un mensonge.
Quand j'y pense, la meilleure comparaison que j'ai en ce moment, c'est j'ai l'impression qu'on m'oblige à croire en Dieu alors que j'y crois pas. C'est comme si j'étais dans un milieu, dans une communauté, où on m'obligeait à pratiquer des trucs religieux que j'ai pas envie de pratiquer. Tout le temps. C'est au quotidien.
Je comprends ton énervement et ton besoin d'en parler.
C'est frustrant parce que j'ai pas envie de blesser les gens. C'est pas mon but, c'est le but de personne, enfin d'aucune femme en tout cas que je connaisse. Et je le ferai pas parce que je suis pas comme ça. Mais des fois, c'est très lourd. Vraiment très lourd parce que je suis là, je serre les dents, quoi. Je serre les dents parce que j'ai l'impression, quand j'y repense, je me dis, mais c'est moi qui suis horrible, comment je fais? Enfin, j'ai l'impression d'être une horrible personne. Qu'est-ce que. Enfin, il faut que je fasse. Je sais pas. Je suis perdue quand c'est comme ça. Pas perdue dans ce que je pense, mais ouais, il y a quand même un côté, j'ai l'impression que je suis une personne affreuse, quoi. Mais je sais pas, je me dis, ben non, en fait, j'ai pas de haine pour vous, je vous méprise pas, je fais tout pour pas vous blesser. Donc, dans la théorie, on est d'accord que je ne suis pas transphobe.
Non, mais dans la théorie comme dans la réalité, tu n'es pas transphobe, c'est pas du tout la question et tu n'es pas
Ah
horrible. Par contre, cette espèce d'agacement que tu ressens et que tu te reproches en plus, heureusement que tu le ressens, ça veut dire que tu sens la dissonance en fait. Tu te rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que moi, je trouve ça très, très flippant, les personnes qui tressaillent même pas en énonçant des énormités. Si tu réagis plus du tout au moment où tu dis une énormité, que tu sais qu'en plus c'est énorme, ça te dit à quel point tu es aliéné, quoi, littéralement.
c'est compliqué. Même là, parmi mes collègues, il y a plusieurs personnes qui sont trans. Et c'est compliqué au quotidien parce que le passing n'est pas le même chez tous.
Tu dis que plusieurs personnes sont trans, ce sont des hommes qui se transidentifient ou ce sont des femmes qui se transidentifient?
Les hommes.
D'accord, donc c'est des hommes qui annoncent être des femmes.
C'est ça. Et il y a un autre problème que j'ai aussi, c'est que je travaille avec des clients. Et par moments, ces clients, quand ils voient certaines personnes qui sont mes collègues, bah, en fait, ils vont dire « monsieur ». Et le problème, c'est que je me retrouve dans une situation où si je dis rien au client, en reprenant le client, j'ai peur qu'on me fasse des reproches et je ne reprends jamais le client, je précise. Mais si je dis rien au client, en reprenant le client, en disant bah, « c'est madame hein, », j'ai peur qu'on me fasse des réflexions. Et en même temps, dire quelque chose, ce serait aller à l'encontre de ce que je pense.
Et est-ce que c'est vraiment ton rôle? Parce qu'après tout, toi, tu es une tierce personne là-dedans, tu n'as pas à faire la police des mots.
C'est pour ça que je dis rien en règle générale.
C'est tes collègues qui en parlent? Comment ça se passe alors du coup? C'est « Ah, moi, c'est madame
Mes collègues, ils n'hésitent pas à reprendre les clientes. Hein. C'est quand même un peu spécial parce que j'espère qu'un jour, ils vont tomber sur une rat femme qui sera de mauvais poil et elle va les envoyer chier sévère parce que. Alors après, ça n'empêche pas que je puisse prendre la défense de ces collègues-là si je vois qu'il y a des gens qui dépassent les bornes, à savoir qui font volontairement des réflexions pour blesser devant tout le monde et que ce n'est pas l'endroit approprié.
Oui, mais là, c'est pas... on ne parle pas
Ça,
de la même chose, évidemment, ça n'a
c'est
rien
pas
à
la même
voir.
chose. Voilà, exactement. Là, pour moi, oui, il y a vraiment une volonté de faire chier la personne, alors que bah, laisse-la, elle fait son travail, c'est pas ton problème. Laisse cette personne tranquille, c'est pas normal de faire ça. En revanche, oui, devoir reprendre des gens pour quelque chose qu'ils n'ont. Enfin, pour... c'est même pas une erreur. Pour quelque chose qu'ils ont dit qui n'est pas en adéquation avec ce que toi tu penses, c'est autre chose. Et ça, moi, je, bah, je peux pas, j'y arrive pas, hein. Je peux pas reprendre les gens pour un truc en plus pour lesquels, bah, je suis désolée, oui, je comprends. Je peux pas.
Et les clients, je me dis que le client, il peut très bien se dire, moi, je ne reviens pas, quoi. Parce que quand on voit que c'est Budweiser, ils ont perdu 2 milliards depuis qu'ils ont confié Bud Light au clown, là, Mulvaney, je me dis, bah oui, quand même, sur le business, ça doit avoir un effet, quand même. Les gens, ils sont pas si bêtes.
Après, là où je travaille, honnêtement, je pense pas que ça ait un impact parce que c'est un endroit où il y a tellement de passages que ça changera rien. Et puis, c'est une clientèle qui est très variée. Et en vrai, il y a autant de très jeunes que de personnes assez âgées. Donc, il y a de tout. Donc, je suis pas persuadée que ça changera grand-chose. Les milieux de la beauté, de la mode, c'est des milieux comme ça qui sont très, entre guillemets, très ouverts.
Du coup, toi, comment tu vis là-dedans, au milieu de tout ça? Parce que finalement, tu te retrouves avec un collègue qui achète des bébés, plusieurs à qui il faut dire elle alors que c'est des hommes. T'as pas, tu le vis bien?
Bah, oui et non. Je vis bien parce que globalement, on a quand même une équipe qui s'entend bien et il y a une bonne ambiance globale. On est quand même sur une très bonne entente entre collègues et sur beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de choses positives. Mais par contre, oui, dès qu'on va sur ces sujets-là, en général, je m'éclipse, je parle pas, je dis rien. Bah, parce que j'ai rien à dire en fait, puisque ce que je dirais, de toute manière, ce serait mal pris. Donc, je peux pas parler. Même si je le voulais, je sais que je ne peux pas m'exprimer librement. Donc, en général, je dis rien. Et s'il y a des sujets qui m'interpellent comme ça, bah, je déconnecte un peu mon cerveau, en fait. Je ne suis pas trop là. J'entends, mais j'entends, je bouillonne intérieurement. Mais j'essaye de me déconnecter un peu et de ne pas trop écouter ce qu'ils disent, parce que sinon, je pèterai un câble. Je pèterai un câble pour plein de choses. Enfin, des propos sur le sujet des transitions, sur la GPA, l'histoire de la grossesse, enfin... Même sur la prostitution, je sais que, par exemple, je suis la seule abolitionniste de la boutique. Je suis la seule qui a un point de vue sur ce sujet aussi qui est non, on ne peut pas dire que se prostituer, c'est un métier et je m'en fiche que certaines femmes choisissent de le faire. En fait, même si soi-disant, elles choisissent des gens, on sait très bien que le premier truc qui fait que les gamines, elles vont dans la prostitution, c'est l'inceste. Et ça, il y a plein d'études qui le prouvent. Qu'il y a énormément de filles qui sont traumatisées, qui finissent dans ce milieu-là, qu'en général, en plus, ça commence assez jeune. Donc, on commence par un métier à 14 ans. Hein.
Je vais faire une petite aparté. Il y a le mouvement d'Uni qui vient de sortir un podcast réalisé par des survivantes de la prostitution, donc qui s'appelle La vie en rouge. Allez l'écouter, allez-y vraiment, courez écouter ce podcast. Si vous devez en écouter qu'un, ce sera celui-là. C'est tous les lundis un épisode réalisé, écrit par des survivantes de la prostitution. Et ça remet bien, bien les idées en place pour les personnes qui pourraient penser qu'effectivement, il y a une phrase qui est dite qui m'a touchée énormément, c'est Alexine qui dit on ne guérit pas le viol par le viol. Voilà, tout est dit, hein.
Ce qui semble être une évidence, en fin de compte. N'importe quel traumatisme, on ne va pas dire à une personne déjà traumatisée, je ne sais pas, une personne accidentée de la route, on ne va pas la mettre dans des situations d'accident juste pour bah, ça va aller mieux. Bah non, ça n'ira pas mieux. parce que ça reste un traumatisme. Peu importe en fait que soi-disant tu le choisisses pour te soigner, ça ne te soignera pas en fait. Ça va juste te détruire encore plus. Et c'est pour ça qu'en fait quand on parle de choix, mais et même si il y avait une proportion infime de femmes qui n'ont pas de traumatisme au départ, qui n'ont pas de problématiques spécifiques, qui n'ont pas eu d'inceste, qui n'ont rien eu dans leur vie, qui vont vraiment se lancer là-dedans parce que, je sais pas, elles aiment le sexe, j'en sais rien. Et encore, c'est pas du sexe. Hein. Même ça, je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas parce que des femmes font quelque chose, qu'elles soi-disant choisissent de le faire, que ça va devenir quelque chose de féministe, en fait. Parce que c'est au détriment de toutes les autres femmes. Parce que quand on dit « je peux me prostituer librement », déjà, ça bénéficie qu'aux hommes. C'est les premiers consommateurs, donc, à qui ça bénéficie aux hommes, encore une fois. Au détriment de toutes les autres femmes, que ça nous met toutes en danger parce que ça veut dire que déjà les hommes ils peuvent nous payer et utiliser nos corps comme ils le veulent, parce que notre corps est une marchandise. Et ensuite ça nous met en danger parce que il y avait des études, je crois, en Suède, je crois que c'était en Suède, où ils avaient montré que le fait d'abolir la prostitution, de protéger les femmes et de pénaliser les hommes quand ils ont ces comportements, ça met dans le crâne aux hommes que les femmes ne sont pas des objets, qu'on ne peut pas les utiliser, qu'on ne peut pas les violer comme ça sans qu'il y ait de conséquences. Ça envoie un message qui est important, qui est de dire les femmes ne sont pas des marchandises.
Et ça envoie exactement le message inverse dans les pays où, où la prostitution est
Oui.
libéralisée, comme l'Allemagne, où effectivement les femmes sont des marchandises et donc il y a une explosion des violences sexuelles en Allemagne, avec l'explosion de la prostitution en elle-même, qui est x10 par rapport à la France, et les violences sexuelles augmentent également.
Oui, puis on dit toujours que c'est les femmes qui choisissent, que c'est pas une question d'être un objet. Je suis désolée, mais quand vous allez aux Pays-Bas, bah, des femmes dans les vitrines, c'est OK de se prostituer. Bah, pourquoi ne pas mettre des gens dans les vitrines, hein, après tout? Donc c'est assez insupportable, ouais, d'entendre des discours pro-prostitution comme ça, comme si c'était un truc fun. Et puis il y a aussi une chose qui, moi, m'a quand même touchée quand j'étais plus jeune. J'en ai pas parlé dans le premier podcast, mais c'était pas une amie proche. En fait, j'ai été amie proche avec cette fille quand j'étais au collège. Et en fait, cette fille que j'ai connue au collège, je lui ai reparlé quelques années suivantes via les réseaux sociaux. Donc, c'est le côté merveilleux des réseaux sociaux. Et j'ai vu un jour sur sa page Facebook RIP Marie, parce que cette fille s'appelait Marie. Et j'ai pas compris ce qui se passait au départ. Et en fait, j'ai fait des recherches. Et il se trouve que Marie, en question, est morte et qu'elle a été assassinée par un homme récidiviste qui avait fait donc de la prison pour des violences, je crois, sur des femmes. Et il se trouve que cette fille que je connaissais, qui s'appelait Marie, a fait de l'escorte. Et qu'elle a connu cet homme en faisant de l'escorte. Donc, la prostitution, ça nous amène aussi à rencontrer des hommes dangereux. De toute façon, un homme qui paye pour accéder au corps d'une femme, c'est un homme dangereux, puisque ça veut dire qu'il s'en fout du désir de la femme qu'il a en face. Ce qui l'intéresse, c'est de se soulager, même pas sexuellement, parce que, enfin, si tu as besoin de te soulager sexuellement, tu as une main. C'est vraiment vouloir dominer un être humain, l'utiliser comme un objet. Et cet homme-là, elle ne l'aurait pas rencontré si elle n'avait pas fait d'escorte. C'est pas pour qu'on jette la pierre sur elle, c'est pour justement jeter la pierre sur les hommes, c'est parce qu'ils profitent de nos faiblesses et de nos blessures, et de ce qui nous amène en fait à nous mettre en danger. Parce que en fait, si elle n'avait pas été blessée, je pense, plus jeune, elle ne serait pas tombée dans l'escorte, ce ne serait pas arrivé.
Oui, on n'y arrive pas par
Parce
hasard du tout.
non, on n'y arrive pas par hasard. Soit, encore une fois, comme les études le montrent, c'est lié à de l'inceste, ou alors un petit ami violeur, comme il y a eu dans le documentaire qui était sur France TV, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'était J'étais déjà morte, le nom du documentaire. C'est des adolescentes qui en parlent et qui, en fait, ont eu des petits copains qui étaient au premier abord hyper mignons, gentils, et qui, en fait, les forçaient à se prostituer. Donc, voilà, cette fille est morte dans ce milieu-là. Et c'est encore pour moi une raison de dire non, en fait. Arrêtez de nous dire que la prostitution, c'est un métier comme un autre. Sinon, les mecs, ils se jetteraient dans ce milieu parce que, visiblement, c'est de l'argent rapide et facile. Si c'est facile et rapide, pourquoi ils n'y vont pas?
Oui, non, si c'était facile et rapide, les femmes ne pourraient pas le faire parce qu'il y aurait trop d'hommes. Et là, aujourd'hui, tu parles de GPA, donc de grossesse pour autrui, tu parles de prostitution et tu parles du genre. Est-ce que tu vois un schéma récurrent dans tout ça?
Oh bah déjà, en général, le schéma récurrent, c'est qu'ils sont toujours d'accord avec tout ça et ils ne voient pas le problème à chaque fois. Même quand tu leur mets des chiffres, des choses sous le nez concrètes, et, ou alors tu leur mets les chiffres sous le nez et ils entendent ce que tu leur dis, mais ils ne veulent pas admettre la réalité. Ils préfèrent rester dans cette idée de « mais non, 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 mais c'est minoritaire, mais non ». Quand tu leur expliques que non, un modèle réglementariste concernant la prostitution, c'est pas une solution, on l'a vu dans les autres pays, bah en fait, ils n'ont pas d'argument. Et généralement, moi, on me répond rien quand c'est comme ça. Quand j'amène mes arguments, j'ai pas de réponse derrière. Et le problème, c'est que j'ai pas de réponse, mais je sais pas si ce que je dis, ça fait son chemin. Parce que je peux pas reparler de ces sujets parce que j'ose pas en parler. Mais oui, le schéma, c'est que bien souvent, tous ces sujets-là, tout est beau, tout est rose, il n'y a rien à critiquer. Tout va bien.
En fait, ce que je vois, c'est que tu es vraiment très seule par rapport à ça. Ça doit être vraiment difficile. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même pas mal d'amis rad-femmes, donc avec qui c'est une évidence. J'ai pas besoin de me battre en fait sur ces sujets-là, ce qui fait que il reste le côté sympa de la relation, sachant que j'ai pas besoin d'être sur mes gardes sur tous ces sujets.
Oui, alors en fait, j'ai des amis, hein, j'ai des amis rad-femmes, juste on se voit moins souvent parce qu'on n'a pas les mêmes vies, enfin, elles ont des enfants et on se parle tous les jours, heureusement hein, qu'on se parle tous les jours. Et heureusement que mon compagnon, il m'écoute me plaindre le soir quand je rentre. Le soir, j'ai un pétage de câble et je lâche tout d'un coup. Et bah, par exemple, dans la voiture, l'autre jour, je lui parlais de tous ces sujets-là, notamment du documentaire de Sophie Robert, l'épisode 2, là, de Mauvais Genre, donc sur les opérations, et je lui en parlais. Et heureusement, heureusement que lui, il me soutient sur ce que je pense. Parce que sinon, mais je sais pas ce que je ferais. Je pèterais un plomb. De pas pouvoir parler à quelqu'un, même si je sais que des fois, ça le saoule, je suis un peu en boucle. Mais en même temps, je peux pas en parler à qui que ce soit d'autre. Enfin, je veux dire, je peux en parler par écrit, mais c'est pas pareil. De voir la personne en face et de pouvoir dire tout ce qu'on pense comme ça, qui nous vient. Et c'est frustrant et c'est lourd. Et c'est lourd aussi parce que je peux pas militer, en fait. Je pourrais militer sur les réseaux sociaux en étant complètement anonyme, en faisant un compte caché, mais du coup, le fait qu'on soit obligé de se cacher, ça nous empêche de militer. Quand tu as une figure, en fait, qui représente quelque chose, ou tu peux te représenter quelque chose avec cette personne, c'est mieux. C'est pour ça qu'on a des représentants politiques, on n'a pas des personnes anonymes derrière ces domaines-là. Mais quand tu es obligé de militer de manière anonyme, c'est très différent, je trouve. Bah, tu sais que t'es pas libre, en fait. T'es obligé de te cacher. Et même en manifestation, j'aimerais bien aller en manifestation. Franchement, j'adorerais aller en manifestation. Mais je sais que je peux pas. Même
Dangereux.
avec mes collègues, bah ouais, je me sens pas en sécurité. Déjà, la dernière fois que j'y suis allée, quand bah, Cap, le groupe Cap en fait, a subi les violences, là, c'était sur le sujet de la prostitution, mais en fait, je me rends compte que tous les sujets que je voudrais aborder en manifestation, je peux pas les aborder. Je suis obligée de rester sur les sujets de base, quoi. Je veux dire, y a plein de sujets dans le féminisme, mais le truc, c'est que pour moi, la prostitution, c'est un des trucs que j'ai envie de pouvoir aborder, j'ai envie de pouvoir en parler parce que je veux pas que ma nièce vive dans ce monde-là, dans un monde où on lui dit qu'elle pourrait être une pute, parce que c'est ce qu'ils pourraient dire, hein, eux. Pour eux, être une pute, c'est pas une insulte, alors que bah, quand tu connais la racine du mot pute, c'est une insulte, hein. Mais même ça, je pourrais pas exprimer mon opinion librement en manifestation sur des sujets qui sont des sujets que j'ai envie de pouvoir aborder. Donc au final, je peux pas me manifester, je peux même pas exprimer ma colère en fait en manifestant. Et pour moi, ça c'est un des trucs qui pourrait qui soulage. Je pense que pouvoir sortir, aller manifester, aller se regrouper avec des femmes, ça fait du bien. Et bah là, je peux pas le faire, comme beaucoup de rats de femmes en fait. Hein.
Je confirme les deux choses. Je confirme que c'est difficile de sortir et qu'il y a toujours de l'hostilité et qu'on est, on fait face à beaucoup de problèmes. C'est vrai que moi, cette année, j'ai axé la manifestation, enfin la partie de mon groupe contre la GPA, justement. Et on ne nous a pas donné la parole, ce qui fait qu'on a dû amener nos propres porte-voix, etc., pour pouvoir prendre la parole. Parce que sinon, on ne pouvait pas parler, quoi. Tout simplement parce que ce n'est pas un sujet suffisamment, comment dire, où il y a un consensus. Mais ouais, bah.
Ouais,
Ouais.
mais c'est trop
Et sur
facile.
l'esclavage non plus, il n'y a pas de consensus. Bah, écoute, on a le droit d'être contre. Et en même temps, je comprends aussi ton besoin de sécurité et le fait que c'est difficile d'être seul. Donc, je te comprends vraiment. Hein. Est-ce que tu as des anecdotes, des choses que tu veux raconter
Ouais, bah par exemple, dernièrement, quelque chose qui m'a un peu choquée, peut-être pas choquée, mais en tout cas mise vraiment très mal à l'aise, c'était au travail. J'ai une personne qui est venue à la boutique, qui était bah, un homme transidentifié, assez jeune. Et en fait, la personne avait besoin d'un conseil. Et le problème, c'est que cette personne, on voyait très bien à des kilomètres que ça n'allait pas bien. Hein. Je pense qu'elle devait être soit droguée, soit alcoolisée. Donc la personne titubait un petit peu. Puis je voyais même au niveau de l'hygiène que ça va pas, quoi. Ça doit être soit une personne qui a un gros problème au niveau de la drogue et de l'alcool et qui du coup bah, est pas en état de prendre soin d'elle au niveau de son hygiène. Et puis je sais pas, ça se trouve même cette personne elle vit dans des squats ou est à la rue. Parce que franchement, quand tu voyais la personne, on voit que ça va pas. Il y avait un pansement, un endroit au niveau du poignet où tu avais un petit papier, enfin un petit pansement avec du sang. Donc, à mon avis, on voit qu'il y a des picouses, quoi. Puis cette personne, comme elle avait des problèmes beaucoup d'hygiène, bah, au niveau de l'odeur, c'était vraiment difficile à supporter. Je repense au témoignage de Mejglane, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, où elle parlait de séances qu'elle a dû faire et où elle disait qu'il y avait un problème avec l'hygiène. Et là, bah, là c'était. Je suis pas très sensible, hein, niveau odeur, mais là, j'ai eu envie de vomir, quoi. Et cette personne, j'ai dû dire madame. Alors que je voyais à des kilomètres que c'était pas une femme, quoi.
Le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont complètement basculé. Et dans la bascule, il y a la question de l'identité de genre. Mais en fait, c'est des personnes qui ont besoin de soins, quoi. Clairement. Enfin, je veux dire, mettre une jupe, ça ne les soigne pas. C'est pire. C'est-à-dire que si on laisse faire en disant tout est normal, mais quelle maltraitance, en fait.
Oui, c'est ça. Pour moi, c'est une forme de non-assistance à personne en danger, quoi, parce que cette personne est en train de s'autodétruire. Donc, je vois pas en quoi c'est l'aider que d'aller dans son sens. Elle va déjà pas bien. Donc, en fait, c'est pas une solution, quoi. Donc, il y a eu cette anecdote-là. Donc, ça m'a quand même mise vraiment mal à l'aise parce que moi, j'ai un rapport avec les gens qui sont alcoolisés. Moi, ça me fait des angoisses assez facilement parce que j'ai eu un père qui était alcoolique. Donc, voir des gens qui consomment beaucoup d'alcool, qui sont pas dans leur état normal, moi, ça me met très mal à l'aise. Et c'est ce qui me gêne un peu chez la plupart des gens, c'est que les gens sont un peu égoïstes sur ça, ils font pas très attention aux autres. Il y a eu aussi une autre chose, c'était avec une ancienne personne qui travaillait à la boutique, qui était donc une personne trans, qui était en relation amicale avec un homme. Et donc cette collègue, cette personne, avait reçu des messages de ce gars-là, qui accusait son ex de l'accuser de plein de trucs horribles, que son ex devait être folle. Et donc la collègue a reçu des photos de l'ex en question de cette femme. Des photos de cette femme qui avait le visage tuméfié. Donc c'était clairement des violences. Et donc ce collègue, parce que c'est un homme transidentifié, était en mode... Ah, mais de toute façon, cette nana, je sais comment elle est, c'est une connasse. Je pense s'il a dû en arriver à la frapper comme ça aussi, c'est qu'elle a dû le pousser à bout. Enfin voilà, c'était je justifie des violences qui sont inacceptables parce qu'on parle d'une femme avec le visage tuméfié, comme s'il y avait des raisons de les justifier. Moi, c'était insupportable d'entendre ce discours. Et ce qui m'a dérangée, c'est que cette personne, donc ce collègue, c'est comme les pygmies, c'est choisis-moi. Moi, je suis une femme et moi, je ne me ferai pas frapper. Enfin, il y a ce côté un peu, comme je suis une femme trans, je vais être plus femme que l'autre femme qui en plus s'est fait frapper, moi, il ne me frappera pas. Et en plus, il va me choisir parce que je suis plus femme que l'autre. Enfin, il y avait ce côté vraiment malsain de vouloir prendre la place d'une autre femme, en fait.
Seulement, mais t'imagines, on réglerait tous les problèmes d'un seul coup. Les hommes violents avec tous les hommes qui se pensent des femmes. Paf, on règle tous les problèmes d'un seul coup.
C'était insupportable à entendre parce que moi, j'ai pas été dans une relation violente comme ça. Mais j'ai eu un ex-copain qui aurait pu être violent comme ça parce qu'il y a eu des violences. Et entendre une personne dire, malgré ce que tu vois, les photos que tu vois son visage, il est tuméfié, elle a des coquards, elle a, je sais pas, elle a des blessures vraiment graves, des jours d'ITT et tout ça. Entendre une personne, et même d'autres personnes, des collègues autour, hein, les autres collègues, ils étaient un peu d'accord avec cette personne. Entendre dire ouais, mais en même temps, je pense qu'elle a fait ça, elle a dû le pousser à bout, mais c'est insupportable pour moi. Je leur ai dit, hein, là, j'ai pas pu la fermer. Je leur ai dit, mais attends,
Mais
c'est
là, ce
pas
que tu décris,
possible.
c'est par deux fois, hein, c'est tu as un homme qui finalement va recueillir la sympathie de ses collègues, alors qu'il fait des trucs carrément dégueulasses, comme acheter un bébé ou valider des violences masculines, juste en fait, parce qu'ils sont proches, ils obtiennent ça par contagion sociale en quelque sorte. Il est gentil, etc. Donc du coup, bon, bah, tu pardonnes des trucs qui sont complètement impardonnables. Et nous, les femmes, on est vraiment. Je pense, c'est vraiment un point sur lequel on doit travailler. Tu le connais, tu le connais pas. C'est pareil, c'est pas parce que tu connais un violeur que c'est pas un violeur, en fait.
Oui, non,
Voilà.
mais c'est
Et
ça.
ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on doit travailler. Arrêter, en fait, de pardonner l'impardonnable. On n'a pas à pardonner.
Ouais. Non, puis ce qui me
Pardon.
dérangeait, c'était bah, les violences, évidemment, de cette amie de mon collègue hein, sur cette femme-là. Mais c'était vraiment le côté on sait très bien que tu vas soutenir le mec parce que tu as envie de te le faire, en fait. C'était vraiment genre, moi, je suis plus une femme, je vais me le faire et moi, il va me choisir. C'était vraiment ce côté malsain, en plus, d'être une meilleure femme qu'une femme, en fait. Ça m'avait tellement énervée cette fois-là. Heureusement, j'étais pas la seule à avoir mal pris le truc, parce que je leur ai fait comprendre à mes collègues que moi, ça, pour moi, c'était inacceptable. Ce qui était dit là, hein, tout de suite, de justifier des violences. Je dis, même si la personne est une connasse, tu ne frappes pas, peu importe. On ne frappe pas une personne, point. C'est pas acceptable, encore plus dans le couple. Donc, il n'y a pas de raison acceptable de frapper quelqu'un. Et les violences, on ne les justifie pas. Parce qu'en fait, dire, ouais, je pense qu'elle l'a cherché, bah ouais, mais c'est quoi, elle l'a cherché? C'est à partir de quand c'est acceptable qu'on frappe une personne?
On est quand même dans une culture très violente. On accepte ça, les violences conjugales, parce qu'on accepte aussi les violences sur les enfants. Et c'est pareil, c'est le
Bien
parent qui
sûr.
va frapper son enfant en disant « Regarde ce que tu m'as fait faire ». C'est exactement la même chose transposée dans le couple. On n'a ni accepté les violences sur les enfants, ni accepté les violences sur qui que ce soit, notamment sous prétexte d'amour.
Ben, c'est pas de l'amour. Frapper une personne que tu es censé aimer, c'est pas de l'amour, c'est justement la preuve que tu ne l'aimes pas. Parce que quand tu aimes une personne, t'as pas envie de lui faire du mal. Tu peux t'engueuler avec, t'as pas envie de lui faire de la peine ou de la blesser. Donc c'est pas de l'amour, il n'y a pas d'amour dans l'histoire, quoi. Donc il y avait eu ouais, cette anecdote là, sur cette histoire-là, qui m'avait beaucoup choquée. Puis le fait que quand donc la collègue avec laquelle je suis assez amie, on parle des fois des violences qu'on a pu vivre. Par exemple, dans les transports, moi j'avais eu une main aux fesses il y a. Bah, le 8 mars, ça faisait pile un an. Le 8 mars de l'année dernière, j'ai eu une main aux fesses quand même. Le 8 mars, hein, c'était vraiment le bon jour bien choisi par le gars. Donc,
Je me rappelle que tu l'avais dit sur les réseaux sociaux, je m'en souviens très bien.
oui, j'en avais parlé parce que j'étais en colère et j'étais quand même fière de moi parce que j'avais bien humilié le mec dans les transports. Et ça, je pense que c'est grâce au féminisme. Je pense qu'il y a 10 ans en arrière, j'aurais pas fait. Je lui ai quand même attrapé la main et je l'ai un peu humilié devant tout le monde. Donc, il n'a pas trop apprécié. Mais c'est surtout que quand j'ai eu cette main aux fesses, ou que ma collègue et amie a eu un homme qui l'a agressé aussi comme ça sexuellement, ses collègues qui sont trans, ça leur a fait ni chaud ni froid, quoi. Il n'y avait aucune empathie quand on en parlait. Vraiment, je sentais aucune empathie. C'était, on aurait cru qu'on aurait pu raconter, bah tiens, j'ai vu le facteur ce matin, c'est zéro réaction. Comme si, finalement, bah, c'est un truc normal de femme, et puis de toute façon.
Moi, je trouve que ça en dit long parce que l'empathie, c'est le fait d'être capable de te mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et effectivement, moi, en tant que femme, tu me racontes une agression, je suis dans l'empathie parce que je sais ce que c'est, je sais ce que ça fait, malheureusement. C'est vraiment la démonstration que les femmes trans ne sont pas des femmes, hein. Parce que justement, ils sont de l'autre côté et c'est une barrière qui n'est pas franchissable, en fait.
Bah, y a ça, et puis il y a le côté, nous, on ne vit pas pareil. C'est une réalité que les femmes, elles vivent depuis 1000 ans. On l'a toutes vécue. On a toutes vécu des violences, on a toutes vécu des agressions dans les transports, des trucs comme ça. On sait toutes qu'on a vécu ça parce que quand on en parle entre femmes, on se rend compte qu'on a toutes le même vécu, quelles que soient les générations. Que je parle à ma grand-mère ou à ma mère ou à ma sœur, on a toutes vécu des violences. Et le truc, c'est que nous, on le vit vraiment comme une violence, alors que les personnes qui s'identifient comme femmes, elles le vivent comme quelque chose qui les valide dans le rôle de femme qu'elles pensent avoir. Parce que c'est vrai, si on t'agresse dans les transports en règle générale, c'est parce que t'es une femme. On va pas t'agresser parce que tu te ressens homme ou non binaire. On s'en fout, en fait. On sait que t'es une femme. Ça se voit. Ou alors, si t'as un passing qui fait que la personne t'identifie comme une femme, elle va t'agresser parce qu'elle pense que tu en es une. Et donc, je pense que le truc, c'est que ça les valide. Comme on voit Olivier Schiappa, qui lui parle tout le temps des agressions H24 qu'il vit comme si c'était un truc. Ça les valide, en fait. Parce que quand ses deux collègues parlaient parfois de certaines agressions, c'est pas la même façon d'en parler. C'est une manière un peu détaillée, un peu crue d'en parler. Parce qu'il y a, je pense qu'il y a une forme de jouissance de se dire, ouais, c'est trop bien, on m'a pris pour une femme, et du coup, ça me valide là-dedans. Mais parce qu'ils ont pas le corps meurtri comme nous, on peut l'avoir, en fait, de par toutes les violences qu'on a vécues, enfant ou dans le couple, ou même, je pense, dans les violences que nos mères et nos grand-mères, elles ont vécues. On n'a pas le même rapport aux agressions, en fait. Pas que c'est moins grave selon le sexe qu'on a, mais que je pense qu'on ne le vit pas du tout les choses de la même manière, de toute façon.
En fait, les femmes le vivent collectivement, alors que pour un homme, ce serait quelque chose d'assez individuel.
Oui.
Ça fait partie de l'histoire des femmes,
Oui.
l'histoire des violences masculines.
Oui, bah oui.
C'est que
C'est pour ça que c'est un
collectivement
des
qu'on en
combats différents.
sortira, d'ailleurs.
Ben oui, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que, quelle que soit la manière, les hommes font toujours tout pour qu'on puisse pas être en mode collectif, justement. Pour qu'il y ait toujours des discordes. Alors, soit ça va être de la rivalité entre femmes pour les hommes, pour être choisies par les hommes, soit c'est de la rivalité entre femmes où ça va être des conflits entre femmes parce qu'on va leur faire croire que tel ou tel truc, c'est génial, c'est merveilleux, et qu'en fait, celles qui sont pas d'accord, bah, c'est parce qu'elles sont trop coincées ou. Et pourtant, c'est triste parce que quand on voit que quand on se soutient entre femmes, mais c'est vraiment génial, quoi. Quand on est que entre femmes, entre nous, et qu'on parle et qu'on s'exprime sur nos vécus, mais en fait, c'est vraiment des moments hyper agréables.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Bah, j'espère que d'ici 2 ans, la situation aura bougé, hein, que je pourrai éventuellement dire que ça va mieux, et que pas dans le sens inverse, bien évidemment.
Alors, on se dit dans 2 ans.
Ouais, dans 2 ans, ouais. On croise les doigts.
Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.